En français, pour elle, ce sont des emails qu'on ne veut pas avoir et que normalement on jette à la poubelle.
Mais quelle est l'ampleur du phénomène des pourriels ?
En fait, depuis les 2000 ans, on est passé du 7% de pourriels par rapport au total d'emails qui étaient envoyés chaque jour au 65%. En fait, le problème, ce n'est pas seulement qu'il a augmenté en quantité, c'est aussi que le pourriel est en train de changer en qualité. Avant, c'était juste de la publicité. En fait, maintenant, il y a une croissance des formes criminelles de pourriels qui ne contiennent plus seulement de la publicité, mais aussi du contenu qui peut aller de la pornographie, mais aussi des lettres qui nous demandent de l'argent ou des lettres qui font semblant d'être une banque pour nous demander notre numéro de carte de crédit. C'est un double problème. C'est la quantité, mais c'est aussi la nature du spam qui est en train de changer, de devenir de plus en plus dangereuse pour les utilisateurs.
Mais c'est un peu comparable aux publicités qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres.
Oui, mais les spams, c'est encore pire parce qu'en fait, si vous pensez à la publicité que vous recevez dans votre boîte à lettres, la personne qui envoie cette publicité est en train de payer aussi pour envoyer. Par contre, la personne qui envoie l'email ne paye presque rien. En fait, les coûts pour envoyer un email en plus, c'est vraiment près du zéro. Donc, c'est pour cette raison que les spammers envoient des millions d'emails chaque jour.
Mais qui sont ces spammers, comme vous les appelez?
En fait, ce serait bien de le savoir. Les spammers, ça dépend. Ça peut être des personnes qui ont une société très bien organisée pour envoyer des spams, mais aussi peuvent être des personnes qui utilisent des autres personnes qui envoient du spam par compte de quelqu'un d'autre. Et donc, ils sont payés par un spam envoyé ou ils sont payés par produits vendus. C'est très difficile de les trouver à niveau juridique parce que normalement, ils vont cacher leur vraie identité. S'ils envoient des lettres, c'est parce que ça donne un profit. Une fois qu'on a acheté une liste d'adresses e-mail pour 50 $, on a les systèmes, les softwares pour envoyer ce genre de messages, ça ne coûte presque rien. 0,0001 $ par message en plus. Et il y a une réponse à ces messages du 7%. Donc, si on pense au coût qui est très bas et que s'il reçoit une réponse favorable ou que s'il vend un produit pour 5 000 emails envoyés, ils ont déjà un profit.
Mais combien d'argent est-ce que ça rapporte?
Ça, franchement, c'est difficile à savoir. Ça dépend du spammeur. Il y a quelques-uns qui peuvent gagner des millions de dollars par année, donc les plus organisés. On sait par contre que ça cause beaucoup de dommages aux utilisateurs, aux fournisseurs d'accès Internet, aux sociétés privées. C'est les temps qu'on perd à éliminer les emails. C'est les risques qu'on prend parce que ce n'est plus seulement de la publicité. Ce sont aussi des virus, ce sont aussi des fraudes. C'est aussi parce qu'on a besoin d'avoir des filtres toujours plus élaborés, donc soit au niveau d'utilisateur, au niveau des sociétés, donc c'est aussi besoin d'un support technique plus avancé.
Est-ce que vous croyez qu'il y a des moyens techniques ou juridiques pour lutter contre ce phénomène?
Oui, alors les problèmes du spam, c'est un problème complexe. On a 5 différents niveaux auxquels il faut intervenir. Il faut une législation spécifique contre les spams, aussi des moyens pour appliquer concrètement cette législation. Il faut avoir des mesures technologiques appropriées et qui soient toujours renouvelées. Il faut avoir des partenariats de l'industrie. Il faut avoir une bonne éducation des consommateurs pour que les consommateurs apprennent à utiliser l'email d'une façon correcte. Et puis, Internet n'a pas de frontières, donc les spams n'ont pas de frontières. C'est pour ça qu'on a besoin d'une coopération internationale pour faire face à ces problèmes.